produit avec le soutien de Sidi Ali, eau officielle des équipes nationales du Maroc.
Bonjour, vous êtes bien sûr Radim Arif, encore avec Reda Allali pour nous raconter cette épopée de 1986 au Mexique avec cette équipe que personne ne pourrait jamais oublier. Reda Allali, bonjour.
Salut, Mustapha.
Ça va, on continue l'épopée. Tu ne mets l'eau à la bouche, comme on dit. Allons-y.
On est dans la phase finale. On a deux premiers matchs qui sont 2-0-0, Maroc-Pologne et Maroc-Angleterre. Alors déjà...
Que vaut la Pologne et l'Angleterre à l'époque?
C'est simple, la Pologne est troisième des deux dernières Coupes du Monde.
Quand même.
La Pologne est troisième de la Coupe du Monde 78, la Pologne est troisième de la Coupe du Monde 74. Elle a un bonhomme dans son attaque qui s'appelle Boniek. Il y a des gens qui s'appellent Lato, Smolarek, c'est des noms qui nous disent quelque chose. Alors, encore une fois, je vous rappelle des années 80, on est dans un monde où on entend des noms, mais on les connaît pas très bien, on les voit pas jouer,
oui,
on les voit tous les 4 ans, voilà, on les voit tous les 4 ans.
Ouais.
On se retrouve donc avec ces deux équipes qui sont deux monstres pour nous, et qu'on l'étouffe. En fait, le Maroc joue défensif, il faut le dire clairement, nettement, le Maroc joue défensif. Le Maroc étouffe les adversaires, il fait horriblement chaud au Mexique, parce que ça joue tôt, ça joue en pleine journée à cause du décalage horaire. Donc les Marocains, les Anglais vont perdre leur nerf. Par exemple, Ray Wilkins, grand milieu de terrain anglais de Manchester United de tête, va prendre le premier carton rouge de l'histoire de l'Angleterre. Ça, pour nous, c'était... Mark Atley, leur numéro 9, va planter ses crampons dans le visage de Dolmé. Il craque nerveusement parce qu'il fait chaud, parce que les terrains sont pas très bons, parce que les Marocains, on les attendait pas à ce niveau, parce qu'on n'est pas loin du piège...
De la grande équipe face à une petite équipe.
Et la petite équipe qui profite de la chaleur, qui casse le rythme, qui n'est absolument pas en panique, qui n'est pas du tout débordée et qui va prendre 2 points en 2 matchs avec ces 2 matchs nuls. Et là, je me rappelle, donc il y avait cette l'idée que ces gars-là sont pas des monstres. Cette Coupe du Monde nivelle les valeurs. On n'est pas du tout devant des gars qui se promènent. Les Anglais, c'est quand même Lineker, Shilton. C'est les mêmes Anglais que ceux qui vont se faire sortir par l'Argentine en quart de finale avec la main de Dieu. On est dans cette Coupe du Monde-là. Il faut en parler, cette Coupe du Monde.
On en reparlera.
Bien sûr, c'est cette Coupe du Monde-là. Et donc, quand on arrive au troisième match, les Marocains ont 2 points.
À l'aise, en forme.
Voilà, nous on est contents. C'est Ramadan, on a vu les... Je crois que c'est pas loin de l'Eid. Yallah, Eid now. En tout cas, on a commencé la Coupe du Monde Ramadan. Et on a ce match contre le Portugal.
Qui n'était pas une grande équipe à l'époque au niveau européen.
Si, le Portugal, c'est le demi-finaliste de l'Euro 84.
D'accord.
La France qui gagne l'Euro 84 avec Platini.
D'accord.
Bat le Portugal en demi-finale après les prolongations de tête.
D'accord. Donc une équipe déjà...
Il y a un Foutré, Pacheco, c'est des bons joueurs. Mais c'est même pas le Portugal. Le problème, c'est le Maroc. Parce que dans la journée de ce match, les Marocains, les leaders un peu de l'équipe vont discuter avec la fédération pour faire le bilan financier. En disant, voilà, si on passe, voilà les primes. Parce que déjà de faire moins, c'est pas une négociation.
Ouais.
En se disant, parce qu'il y a la prime de la victoire, s'ils gagnent, et la prime de la qualification. Et ils font le calcul, et ils disent donc, si on gagne cet après-midi, hachal binetna. Et j'ai fait le calcul, j'ai traduit un peu, ça ressemblerait aujourd'hui, en valeur, pas en chiffres, à 400 000 dirhams chacun.
D'accord. C'est fortune, bien sûr.
Ce qui est beaucoup, parce que c'est pour tout le monde, et surtout parce que la fédération, en fait, quand elle s'est mise d'accord avec les joueurs sur les primes avant de partir, n'avait pas du tout l'idée que tu allais accumuler 2 matchs nuls, une victoire et une qualification, ça fait 3, en fait.
Et
là, le président de la fédération, c'est Driss Bemmous. Alors, il faut se rappeler de qui est Driss Bemmous. Driss Bemmous, c'est un largement, tu vois, c'est un
colonel.
C'est un très beau joueur. C'est un très beau joueur de 70.
Il a fait le Mexique, lui.
Bien sûr. Un milieu de terrain très élégant, clairvoyant, genre. Mais là, c'est plus du tout le même personnage. Là, c'est un militaire. Il a pas des très bons rapports avec les joueurs. Il est un peu cassant. Il a jamais été proche de cette équipe-là.
À la dure.
On n'est pas dans l'affectif. Et il leur dit, en gros, écoutez, moi j'ai dit oui, mais bon, on n'a pas cet argent-là. Mais qu'est-ce que je dis, je vous livre
tout.
Et là, les joueurs montent dans les chambres. Voilà, allez jouer vous-même. Et là, je rappelle, il faut parler un peu de cette ambiance. Dans les années 80, on est dans des luttes sociales. On n'est pas... C'est classique, tout ça est classique. Tout ça est classique, boycotter, se retirer,
faire un peu
les bras de fer, tout ça. Et ce qui est important, c'est que dans cette équipe-là, même les joueurs des phares, qui sont pas du tout dans la confrontation, ils montent aussi dans les chambres et personne ne joue. Personne ne joue, on appelle Slim Lali, qui est le ministre des Sports, qui arrive de son hôtel est loin. Slim Lali, c'est un homme politique, tu vois. Slim Lali, il était président du Raja, il est avocat, il est homme politique, je sais pas dans quelle partie il est, mais lui, il a compris la situation. Il est pas un militaire. Voilà.
Négociation. Négociation.
Il sait que si les gars gagnent, il n'y aura pas de problème d'argent. Hein. Ça, alors il arrive très tard et il leur dit oh, c'est bon, j'ai parlé au roi, tout est ok, c'est validé. Il a parlé à personne.
Hein. Et donc. Bah oui. Bah c'est ça.
Bah c'est la politique. Mais il a compris que si jamais il gagne, il n'y aura pas de problème. Il n'est pas.
Absolument.
C'est l'autre qui a pas quoi. C'est le
président de la fédération.
Bah oui, mais lui aussi, il est dans son rôle. Il a une caisse sous les. Voilà. Ouais. Bon, bref, il y en a un qui a compris ce qu'il fallait faire. Effectivement, les joueurs arrivent à la dernière minute, très tard. Très tard au stade. Et il marche sur le Portugal. Voilà. Premier but de Khaeli, deuxième but de Khaeli, troisième but de Clément. Les deux premiers buts, c'est le genre de but typique d'un joueur qui est touché par le Baraka Dil Moulena. C'est un joueur qui est très bon. C'est-à-dire, le type n'était pas connu. Moi, je me rappelle de Khaeli. C'était un besogneux. C'était un milieu de terrain offensif, un peu discipliné. Faria Kankeimout, c'était un bagarreur. Il avait un gros coffre, un gros physique. Tu vois, c'est un peu le Abalabt grand frère.
D'accord. L'aîné, Nordin.
Ouais, Nordin. Voilà, c'est un peu ce type de joueur, mais dévoué, qui va défendre, qui va machin. Et là, il met le premier but sur une frappe, le deuxième but sur une reprise de volée. On a 2-0. Alors, j'ai su après que les Portugais aussi avaient des problèmes de prime. Ah. C'est intéressant, l'époque était à la, voilà. L'époque était à la lutte sociale.
Absolument.
Le troisième but, il faut le voir, hein, si vous avez l'occasion. Je crois que c'est une douzaine de passes, anti-Kitaka, depuis Zeki jusqu'à Klimo, qui va battre.
Qui conclut
en face à face. C'est un but, qui transpire le foot. C'est un but, qui montre que le Maroc savait attaquer, le Maroc pouvait attaquer, le Maroc a lâché ses atouts offensifs dans le troisième match et avait parfaitement les moyens de proposer du jeu. Et quand il a fallu le faire, ils l'ont fait. Il y a une réduction du score portugaise en fin de match. Ça donne 3-1, il se met à pleuvoir. Bon, non, c'est pas très bien ce qui se passe quand on est dans la rue. Les Marocains sont tous dans la rue.
Explosion de joie.
Ouais, non, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de drapeau, on n'a rien, quoi.
Comme ça, spontanément.
Voilà, on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Je me rappelle quand on est revenu chez nous, ben, ils étaient en train de repasser le match. Le lendemain, ils l'ont repassé.
Waouh!
Voilà. Il y a des plans de ce. Voilà, on a tous connu ce match par cœur. Donc on est premier. On passe premier du groupe devant le Portugal, la Pologne et l'Angleterre. Voilà. C'est très difficile à expliquer la place de cette équipe qu'elle a dans le cœur des supporters parce que c'est la première fois. Après, il y a eu le Sénégal qui est passé, le Nigeria qui est passé, le Ghana. Mais là, c'était la première fois.
Ah, tu m'avais dit que l'Algérie était présente également, performance.
Non,
parce que là, c'est 86 et après 82,
ouais,
Pas
bonne, c'est une déception parce que 82, on va rappeler que l'Algérie avait fait une super Coupe du Monde en battant
en Espagne.
La RFA. Elle avait battu la RFA et la RFA et l'Autriche avaient
fait le score. Combine match nul, je crois.
Voilà, donc pour nous, en 86, ils sont plus forts, mais en fait, non, ils ne sont pas plus forts.
Ça y est,
la génération, voilà. C'est une génération qui avait peut-être déjà entamé son déclin, c'est une génération qui avait commencé.
Toujours la
Kaza,
même, avec Benoumi, tout ça. Toujours les mêmes.
Exactement, et ils ne font rien de spécial. C'est le Maroc qui fait la sensation, c'est le Maroc qui passe en 8e, première équipe africaine qualifiée en 8e, première équipe africaine, première de son groupe évidemment.
Excuse-moi, question technique, est-ce que paraît-il, quand une équipe africaine se qualifie au deuxième tour, ça augmente le quota de l'Afrique, vrai ou faux?
Non, c'est de la politique, ça n'a rien à voir, c'est un argument pour demander à ce qu'on augmente le quota.
D'accord.
Mais ça n'a rien d'automatique.
C'est pas écrit dans les règlements, d'accord.
C'est un rapport de force. Je vais te dire, moi, ce qui augmente le quota de l'Afrique, c'est même pas... Alors bien sûr, quand tu as des résultats, ça aide. Ça aide et c'est un argument, disons, sportif qui peut te servir devant l'opinion publique. Mais la vraie façon qu'a eu l'Afrique d'augmenter son quota, c'est des arguments politiques. C'est-à-dire que quand Blatter veut se faire réélire, par exemple, plus tard, ou quand Avalanche veut se faire réélire, il fait le tour de l'Afrique en proposant...
Il faut négocier, voilà.
En augmentant, parce que l'Afrique, c'est quand même une cinquantaine de pays, 54, 55, enfin, ça dépendait... L'Afrique, c'est quand même une cinquantaine de pays. Donc, fatalement, ce sont 50 voix, parce que ce sont eux qui votent pour le... Alors, l'Amérique, par exemple, c'est une douzaine de pays. Donc, le vrai rapport de force, il se fait lors des campagnes électorales où tu vas trouver Blatter plus tard, faire le tour des confédérations africaines en disant vous allez avoir une place de plus, deux places de plus, trois places de plus, comme ça qu'on arrive jusqu'à 5.
Votez pour
moi. Voilà. Alors, bien sûr, les performances du Maroc aident. Ça donne la légitimité, ça crédibilise la... Mais surtout, ça joue au niveau politique. Donc, le Maroc est en 8e.
Face à qui?
Face à la RFA, encore.
Encore.
Encore cette RFA qu'on va affronter dans la fournaise et qu'on va affronter surtout sans le Biès. Alors pourquoi le Biès? C'est pas là. Parce que le Biès a une cote un peu fêlée. Comment il s'est fêlé une cote? Il s'est fêlé une cote dans la... célébration du match de but de Khaili. Si vous regardez le but de Khaili, vous voyez Aziz Boudelba qui saute sur la pyramide de joueurs et il touche le genou. Avec le genou, il touche la côte, donc on s'est blessé tout seul, en fait. Voilà, en résumé. Je te spoil le truc. On s'est blessé tout seul. Notre plus
comme
dur.
Comme quoi, fêter, il faut le faire dans la règle de l'art.
La tifalette, exactement. Moulvinch. C'est ça le truc, c'est que c'est notre joueur le plus dur qui était rarement, Biel s'était jamais blessé. Et on arrive contre la RFA, ce match, Sina prend la place de Biez, et pareil, on étouffe.
Qui y avait dans cette équipe allemande de l'époque, comme célébrité à l'époque?
Il y a un jeune Mataos qu'on va découvrir, il y a Brigel, il y a devant notre ami Rummenigge, Littbarski évidemment, Breitner, Schumacher, c'est une équipe calte, voilà, c'est une équipe, on va pas dire sympathique, mais extrêmement solide. C'est l'équipe qui a éliminé la France en 82 à Séville, qui a fait pleurer Platini et Giresse. D'accord. C'est l'équipe, elle va rééliminer la France en 86.
D'accord.
Et il va falloir Maradona en finale pour les ramener sur terre. Et c'est l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde en 90. Donc ce sont des gens, c'est l'époque où Lineker dit le football est un sport qui se joue à 11 où l'Allemagne gagne à la fin. C'est l'équipe qui,
dont on a l'habitude de dire. Confiante,
solide, ouais.
Sûre d'elle-même.
Oui, mais qui dégage une sorte, pour moi, une espèce de négation de la poésie, tu vois. C'est sérieux. C'est sérieux, ça gagne, mais c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant.
Et alors?
Et c'est ce qui va se passer, voilà. 88 minutes de bras de fer, des Allemands de l'Ouest qui sont pas très en forme. Haddaoui qui fait un gros match, c'est l'homme du match. Zeki qui fait un gros match sur sa ligne. On va parler de Zeki, mais avant ça, il faut comprendre que la RFA, finalement, il y a un malentendu. C'est-à-dire que nous, les Nord-Africains, Marocains, Algériens, Tunisiens, on a toujours considéré comme la RFA, comme le symbole de tout ce qu'on n'est pas, la solidité, la Mercedes, machin, Hadid Diallo l'Allemagne, machin.
L'image de l'Allemagne, ouais.
Ouais, ben en fait, finalement, la RFA nous bat en 70 d'un but, elle fait match nul contre la Tunisie en 78, elle perd contre l'Algérie en 82, elle souffre contre les Nord-Africains. En 2014, exactement. L'Algérie en 2014, en Coupe du Monde, je pense pas qu'elle la batte facilement, je pense qu'elle souffre beaucoup pour passer l'Algérie. Donc finalement, ils ont toujours galéré. Et ce match-là ne fait pas exception. C'est Mataos en 88e minute qui met une espèce de frappe de mule de 35 mètres. Le mur marocain cafouille, hein. C'est une erreur du mur. Je crois que c'est Hassina qui sort du mur à la dernière minute. C'est Zeki qui est frappé. Alors Zeki, il faut le dire, hein. C'est pas lui faire injure que de dire que tout le monde savait que le problème de Zeki, c'est les frappes de loin. Voilà, c'est Abou Zeid de loin, c'est Tarek Diab, le Tunisien de loin, c'est Mataos de loin, c'est les tirs de loin. Voilà, c'est les tirs de loin.
Avec ce petit point faible.
Ouais. Il a ce point faible-là qui est le tir de loin, voilà, et qui est ce mur mal placé. C'est le but un peu du tiers-monde, voilà. C'est le but du manque de concentration. C'est le but que Regragui va leur montrer en Coupe du Monde avant le quart de finale, en leur disant voilà ce que c'est qu'une seconde de. Pourquoi je dis que c'est la matrice? Parce que cette équipe-là, je le répète, on l'a tous vu, Regragui l'a vu, et c'est l'équipe qui nous a montré à la fois que c'était possible et de ce qui nous manquait.
Les erreurs à ne pas commettre.
Ouais, les erreurs à ne pas commettre. Donc il y avait cette fierté-là, mais ce qui est important, c'est que cette équipe-là, pour des raisons politiques, Hassan II voulait faire venir le 9 juillet. 9 juillet, c'est là son anniversaire, c'est Etchebev.
Ouais, donc ça y est, c'est terminé.
Terminé.
Mais c'est pas en
juillet. Il reste là-bas.
D'accord.
Il reste là-bas, il faut venir.
Ils sont partis un mois avant. Et elle va en rester encore plus longtemps.
C'est la plus longue Coupe du Monde de l'histoire de tout le monde.
De notre équipe nationale.
Si tu regardes la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde Argentine-Allemagne, tu les vois. Ils sont dans la tribune.
D'accord.
Voilà, c'est 10 jours après leur match, ils sont encore là-bas.
D'accord.
Mais c'est pas fini parce que pour être là pour Etchebeb, il y a encore 2 semaines ou 10 jours. Ils vont les passer à New York. On les envoie à New York, on leur donne des primes. Par le $5,000 chacun, je crois, et puis ils vont acheter tellement d'électronique, des magnétoscopes, des caméras, de machin, qui va avoir un conteneur qui va être mis à leur disposition.
Waouh.
Voilà.
Elle mérite.
Et ils arrivent effectivement, ils sont à l'hôtel Samir à Mohammedia, et ils vont défiler avec Hassan II, Nawel Moutawakil et Saïd Aouita.
Eh oui, parce que c'était aussi la performance de, en même temps, de Aouita et de Nawel.
Nawel Aouita, c'est 2 ans avant. Mais c'est un peu tous les héros de Nawel et Aouita qui sont d'ailleurs, tu peux me contredire, toi qui connais mieux la politique que moi, je crois les seuls Marocains cités par le roi dans un discours. Il a dit leur nom en disant qu'ils étaient plus connus que lui.
Wow.
Et je pense pas qu'il y ait autant de Marocains qui aient eu le droit à être cités.
C'est vrai.
Il n'y en a pas beaucoup.
En tout cas,
eux, c'est sûr. Ils sont sur le bus.
Il y a de quoi.
L'espèce de bus, c'est une espèce de char avec un Kola Dil Hadid, je sais pas comment le dire, un ballon de fer. Un truc qui va faire le tour du stade d'honneur. Les images sont sur YouTube, hein, si vous voulez. Et c'est vraiment le triomphe romain, tu vois. C'est le triomphe romain de l'équipe qui a déclenché beaucoup de choses. Elle a déclenché, comme ça, ce sentiment de que c'était possible. Elle a déclenché aussi une chose assez étonnante. se raconte aujourd'hui, c'est que c'est un peu dans la foulée de cet exploit-là qu'on va demander l'organisation de la Coupe du Monde.
D'accord.
Voilà.
C'est l'origine.
Alors, il y a des versions qui disent que c'est l'idée de Simlali reprise par Hassan II, c'est l'idée de Hassan II, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans la foulée de ce mondial-là et ça passe pour une folie.
Ça a donné une confiance extraordinaire.
Voilà. À l'époque, la Coupe du Monde à organiser, c'était un truc méchidienne. C'est un truc d'Yélon.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Et effectivement, on va pas avoir cette organisation, mais l'Afrique va l'avoir en 2010 par l'Afrique du Sud. Vraiment, c'était le premier pas vers cette organisation africaine.
D'accord. Alors, retour triomphal de l'équipe nationale, et c'était la Coupe du Monde de Maradona de la main de Dieu.
Oui, s'il exactement. Te plaît,
raconte-nous, toi, fan de Maradona que je te connais,
oui, bah,
t'as même une dédicace de lui, j'imagine.
J'ai une dédicace de lui, ouais. C'est Maradona, c'est sa Coupe du Monde, dans le sens où il va prendre l'équipe d'Argentine sur ses épaules. Maradona, c'est quelqu'un qui a une double frustration. En 78, il n'est pas dans l'équipe, il est très jeune. Il estime qu'il aurait dû avoir sa place, mais il n'est pas sélectionné. C'est la Coupe du Monde qui a lieu en Argentine, il la gagne sans lui, avec Menotti. 82, il est une petite star, trop de pression sur les épaules, il craque complètement contre le Brésil, il prend un carton rouge. Tout le monde est déçu, l'équipe d'Argentine de 82, championne du monde, sort sans gloire de cette Coupe du Monde espagnole. Elle est également victime d'une énorme fitna, je ne sais pas comment le dire, politique, puisqu'à ce moment-là, il y a les fans du régime militaire et les opposants du régime militaire.
Dans l'équipe.
Dans l'équipe.
Là, ou là.
Dans l'équipe, parce que l'Espagne, ils sont dans un pays hispanophone,
ouais.
82.
Ouais.
Ils ont accès à la presse espagnole qui fait des Hamlet, si tu veux, contre Pinochet. Donc, il y a une partie du groupe qui se solidarise du gouvernement. Enfin, ouais. C'est terrible, c'est terrible. Il y a les Passarella qui est très proche de Videla, etc. Bref. Et tout ça explose dans une Coupe du Monde où ils font rien de glorieux. 86, Maradona est au top de sa carrière. Il a, je pense, de tête 26 ans ou 25, 26 ans. Voilà, il va prendre l'équipe sur ses épaules. Bilardo, va faire l'équipe qu'il veut. C'est-à-dire, il déborde du terrain. Il a son mot à dire sur ses coéquipiers. Tout le monde joue pour lui.
Ouais.
Il est absolument pas contesté. Par exemple, on parle souvent de le côté comment gérer un joueur un peu rebelle, un joueur un peu fêtard. Et ben l'équipe, Valdano, qui est un peu un poète de cette équipe-là, si vous tombez sur les interviews de Valdano, allez les lire, parce que c'est un type qui parle très bien, qui est attaquant de cette équipe, raconte qu'ils sont allés voir l'entraîneur, disent laisse-le sortir, s'il veut s'amuser, laisse-le s'amuser.
Parce qu'il n'était pas discipliné dans l'équipe,
Non, sur le terrain, il te ramène 3 points, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un égoïste, c'est pas du tout quelqu'un qui joue pour ça. Il va faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe.
Okay.
Il va faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Si ça veut dire jouer seul et dribbler 5 joueurs, il va le faire. Si ça veut dire se mettre en retrait et jouer en une touche de balle comme il va faire en finale, il va le faire. Par contre, c'est quelqu'un qui, pour être bien dans sa vie, a besoin de sortir, de danser, de faire le... Voilà, c'est comme ça.
Et
l'équipe va lui donner cette
possibilité-là.
Vas-y. Wow. Et Valdano raconte qu'en pyjama, il allait se coucher, croiser Maradona qui allait festoyer. Et tout le monde était d'accord. Si c'est comme ça qu'il est le mieux, il est meilleur. Donc, cette espèce de match mythique, parce qu'il y a le but de voleur marqué de la main, et il y a le but de génie où il traverse tout le terrain, il va battre dans la foulée la Belgique, gagner cette Coupe du Monde. Et c'est très important parce que c'est un peu une conscience du tiers-monde. Voilà. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait 3 posters chez les Moline Pisseliet, Winsley, au Maroc, il y avait Maradona, Bruce Lee et Bob Marley. C'est
absolument.
Un peu les trois héros du tiers-monde. On ne comprenait pas très bien ce qu'ils disaient, mais on avait compris qu'ils étaient avec nous. Tu vois.
Ouais.
Et cette Coupe du Monde, c'est celle de Maradona. Voilà. C'est celle de Maradona, c'est celle du Maroc en 8e de finale. C'est celle où enfin,
c'est là qu'il y a la main de Dieu contre les
Anglais.
C'est
là, bien sûr.
Toute l'histoire, enfin...
Des Malouines.
Des Malouines entre les Anglais et les Argentins, une sorte de revanche, quoi.
Ben écoute,
le pauvre arbitre tunisien qui a pris sur ses grades.
Ben Nasser, qu'il est parti voir bien plus tard. Écoute, à la mort de Maradona récemment, il y a Peter Shilton, qui est le gardien
anglais,
qui a vu la main. En fait, sur le terrain, tout le monde a vu la main, en réalité. Maradona a fait 2 diableries. La première, c'est de mettre sa main comme ça, juste au-dessus de sa tête. La deuxième, c'est d'appeler tous ses joueurs en disant agir, parce que il faut vite mettre les gars devant le fait accompli. Ficelle.
Pression psychique sur l'arbitre.
Pression psychique, il a sifflé, il n'y a pas de VAR, il n'a pas le temps de se retourner, machin, etc. Les Anglais ou les Nets protestent un tout petit peu. C'est pas les Italiens, les
Égyptiens.
Ça avait été les Égyptiens. Ils n'auraient jamais repris ce match. Donc il fait cette entourloupe, etc. Il met la pression sur l'arbitre. L'arbitre s'accorde le but. Le deuxième but, met tout le monde d'accord, parce que de l'avis général, il en vaut 2. Donc ça fait bien 2-0. Et puis il y a cette ambiance qui consiste à dire, voilà, ils nous ont battus aux Malouines, Thatcher a été ce qu'elle a été, ben on va magouiller un peu pour équilibrer, ce qui fait partie de la culture foot, hein, beaucoup en Amérique du Sud, et qui aussi fait partie du spectacle. Je pense que si on regarde le foot, c'est aussi parce qu'on a une certaine fascination pour les entourloupes, comme on regarde Le Parrain ou Scarface, etc., où on sait que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais tu peux pas te retenir tellement ça apporte quelque chose au spectacle d'avoir une façon un peu malicieuse d'aborder le jeu. Peter Shilton, par exemple, quand Maradona est décédé, s'est fendu d'un tweet en disant « Non, non, c'est un voleur. » Les Anglais, « Brasson Darofé ».
Ah,
Gélolé, c'est pas du fait. Seed. Mais deuxièmement, toi, tu as tes mains, lui, il fait 1m60, fait, c'est quoi, Khabib Do.
Absolument.
Renonce, voilà.
Tu as dit tout à l'heure qu'il a revu l'arbitre, peut-être, Maradona.
Nasser, oui, bien sûr. Bien sûr, il est parti le voir pour s'excuser. Mais
quand il... Beaucoup plus tard.
Oh oui, beaucoup plus tard. Ouais. De tête, Nasser, il est sur El Fouqia, donc il est. Oui, bien sûr.
Extraordinaire.
Mais c'est une Coupe du Monde de légende. Le Maroc a fait une performance de légende. Tous ces gens-là, ils ont un statut très spécial. Si je peux faire un spin-off, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont devenus, je vais te le résumer en disant ces gens-là sont venus trop tôt. C'est pas l'arrêt Bosman, c'est-à-dire pour sortir du Maroc, il te faut l'autorisation de la fédération déjà,
ouais.
Du pays qui t'accueille, l'autorisation de travail, les limitations d'étrangers par équipe. Ça fait des gens qui vont jamais avoir vraiment au niveau international la carrière qu'ils méritaient. Typiquement, c'est symbolisé par un joueur qui s'appelle Mohamed Timoumi, qui pour moi avait sa place dans à peu près n'importe quelle équipe, qui est vendu blessé par les phares.
Wow.
Il est livré un peu aux agents qui sont pas là pour le bien du joueur, mais pour le bien de leur poche, qu'il va vendre blessé sans le dire à Murcie. Il va se retrouver à Lokeren. Lokeren, Murcie, on n'est pas dans le standing de Timoumi.
Ouais,
voilà, on n'est pas du tout dans le standing de Timoumi. Zeki va réussir à Majorque. Voilà. Dewi va beaucoup tourner en France. Mais c'est une équipe qui est peut-être venue trop tôt par rapport à l'explosion des salaires et l'ouverture des frontières.
Merci beaucoup, Reda, de nous avoir raconté cette épopée excellente après Mexique 1, Mexique 2 et l'heure de gloire. C'était Podcast Le Montachab. Restez à l'écoute. Merci, les amis. À la prochaine.
Avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc.